Bien, bonjour à tous, je suis vraiment enchanté de m'inviter et d'accueillir aujourd'hui Sophie Guilin, qui est directrice générale associée de Respublica. Elle nous dira un petit peu plus tard ce que c'est que Respublica et comment vous vous êtes créé, ce que vous faites précisément. Vous êtes quelqu'un qui intervient de manière très significative dans les processus de démocratie participative, d'aide à la prise de décision à différents niveaux de collectivités et d'enjeux dans ce domaine de ce qu'on appelle nous l'ingénierie démocratique. C'est le premier des podcasts du LLM Public Law and Democracy à l'Université Paris Panthéon Assas et on est aujourd'hui à l'Institut Michel Villette, que je remercie de nous accueillir. Sophie, on est convenu de quelques points de discussion. On serait très heureux de vous entendre sur votre parcours à vous, qui vous êtes et comment vous en êtes, si j'ose dire, arrivé là. Après, on parlera de Respublica, après des expériences que vous avez faites et dont vous voulez nous parler. Et puis, on essaiera de garder un dernier segment pour la question des évolutions de la démocratie participative. Donc, je vous donne la parole. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Ça a été difficile de venir, donc on ne vous en est que plus reconnaissant.
Bien, merci pour cet accueil. Donc, je suis dirigeante d'une petite entreprise de conseil spécialisée en concertation et nous qu'on appelle plus généralement le dialogue collaboratif parce qu'on ne fait pas que de la participation citoyenne, mais aussi du dialogue sous toutes ses formes avec des personnes qui ont intérêt à construire collectivement des projets, des politiques, à répondre à des questionnements sociétaux, etc. Donc du coup, Respublica va fêter le 1er avril ses 20 ans. J'ai rejoint Respublica sous différentes formes, d'abord en collaborant il y a 19 ans. Donc j'étais pas à la fondation de Respublica, mais j'ai eu un parcours avant qui m'a amené à considérer la concertation comme finalement utile et efficace pour les projets sur lesquels je travaillais. J'ai une formation en sciences politiques et surtout en urbanisme. Et donc c'est l'urbanisme qui m'a amené sur le terrain à travailler avec des tas de spécialités. Donc d'abord avec des experts, mais aussi des politiques, des citoyens ou des associations ou des personnes qui d'une manière ou d'une autre avaient un point de vue ou des idées ou des propositions à faire sur les projets que je menais. Et ça m'arrangeait bien parce qu'en tant que jeune urbaniste, j'ai été assez sidérée rapidement par l'ampleur de la tâche, des enjeux croisés, systémiques, etc. et qu'on ne peut pas travailler tout seul sur ces sujets-là. Et en plus, je le faisais sur quelque chose qui me semblait complexe, mais aussi à l'étranger, puisque mes 15 premières années professionnelles, je les ai passées à l'étranger, au Portugal, en Italie, au Brésil, en ayant fait un petit tour aux États-Unis aussi, mais du coup des séquences de 3 ans environ de travail sur le terrain, en urbanisme, mais surtout en planification environnementale, après finalement la conférence de Rio pendant laquelle, et dans les engagements et dans l'agenda 21 de la conférence de Rio, la place de la participation était présente comme un des engagements. Je l'ai embrassé de manière assez finalement efficace. Et au début, je le disais vraiment pour ne pas être toute seule dans mon travail, parce que je sentais que la place de l'expertise partagée et puis peut-être aussi plus personnellement de l'humain et de l'expertise des gens et de la rencontre des gens me plaisait bien. C'est pour ça aussi que je voyageais. Donc j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche au Portugal et puis ensuite dans des boîtes de consulting ou pour des boîtes de consulting dans les pays que j'ai cités. Et quand je suis revenue en France, je me suis rendu compte que la place de ce que j'avais approfondi, qui était finalement le dialogue, je ne parlais même pas concertation, hein, mais je voyais bien la participation citoyenne, mais j'avais plutôt fait du dialogue des parties prenantes, ou du management de parties prenantes dans des projets complexes. Je me suis rendu compte qu'en France, cela n'existait pas comme en tant que tel. Et donc j'ai un peu cherché et je suis tombée par rencontre professionnelle finalement l'évocation d'une entreprise qui venait de se créer, qui s'appelait Respublica, qui rassemblait deux personnes, trois personnes d'ailleurs après, parce qu'il y avait aussi une personne qui gérait l'entreprise, chez qui j'ai toqué, Et dans les 3 minutes après mon premier mail, ils m'ont répondu. Donc, visiblement, ils avaient aussi le sentiment d'être un peu seuls. Voilà. Et donc, on a commencé une aventure commune. Et au fur et à mesure, donc, j'ai travaillé en tant qu'indépendante pour eux parce que je continuais l'activité d'urbanisme. Et voilà. Et j'en suis devenue consultante. Puis, voilà, je vous passe les étapes. Mais aujourd'hui, directrice. Et donc, associée avec Gilles-Laurent Ressac, qui était le fondateur principal. Et dans cette entreprise, on est maintenant 25 personnes, donc avec une croissance que j'ai accompagnée depuis une dizaine, douzaine d'années, avec des jeunes consultants et plus expérimentés qui sont en fait issus de l'urbanisme, comme moi, mais très peu, de la géographie, des sciences politiques, de l'économie, du design, de l'architecture, des écoles de commerce maintenant, d'ingénieurs. Et comme on a un outil numérique aussi qui accompagne le dispositif, on a des développeurs et une équipe technique qui vraiment travaille sur la dimension numérique de la participation. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez que je continue sur ce que fait Respublica d'une manière générale?
Juste un peu, ça m'intéresse de par notre métier et notre auditoire. Ça veut dire que désormais, quand on a un diplôme de géographie, ou d'urbanisme, etc., il y a des débouchés dans des activités comme les vôtres?
Alors, tout à fait. En fait, nous, on regarde à peine le diplôme.
D'accord.
On regarde finalement l'appétence et la capacité à écouter les autres expertises qui vont avec la sienne. Et c'est sûr que dans certains processus, notamment sur les questions d'urbanisme ou les questions de transition, on a besoin de fonds, mais on convoque plutôt les expertises externes. Donc, en fait, c'est plutôt la capacité à entendre ces expertises et à pouvoir les mettre en débat. Donc, en gros, on recherche plutôt des moutons à 5 pattes qui ont une appétence sur un sujet particulier, mais qui vont être à l'écoute d'autres sujets, parce que des consultants chez nous peuvent passer d'un projet d'urbanisme à une politique stratégique sur les énergies, à un projet économique local d'éducation, à un projet sur le sport. Voilà, donc en gros, la matière importe peu, ou finalement l'origine des études importe peu, c'est plutôt l'apprentissage qu'on a eu pendant ces études avec tous ces soft skills de partage, de vulgarisation, de réflexion stratégique et politique. Donc, c'est sûr qu'on a quand même plus de personnes qui viennent des Sciences Po, quoi.
Alors, une question que je peux quand même retenir de poser, c'est est-ce qu'il y a du droit dans ce que vous faites? Est-ce que vous
prenez? Alors, oui. Oui, mais on recrute peu de juristes qui ont envie de passer de ce point de vue-là. Oui, parce que là, en France, notamment, on est un pays qui aime bien réglementer les procédures publique et administrative, et donc la concertation réglementaire est inscrite dans le code de l'environnement et dans le code de l'urbanisme. Et donc, une de nos préoccupations quand on commence et qu'on analyse une situation, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une désobligation juridique de mise en discussion. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ces dispositifs-là, mais quand il faut travailler avec la CNDP, la Commission nationale du débat public, quand il faut organiser une concertation au titre du code de l'urbanisme, on a quelques obligations qu'on doit pouvoir rappeler aux maîtres d'ouvrage ou nos commanditaires. Et on doit pouvoir aussi, d'une certaine manière, sécuriser ce dispositif. Mais on dit, et systématiquement, parce qu'évidemment, on a quand même une connaissance qui nous demande ce qu'on en pense, on a dit, j'en pense cela, mais vérifier avec un juriste.
D'accord.
Qui va mettre ceinture et bretelles derrière. Donc, après, on revient dessus en disant, le choix de concerter est aussi un choix politique. Donc, faites attention à ne pas l'encadrer uniquement d'une vision juridique. Ouais. Faire à minima ou faire au maximum, c'est pas ça la solution. La question, c'est vraiment d'avoir une démarche politique et technique qui accompagne bien votre projet.
Et juste une dernière question dans cette rubrique-là. Est-ce que vous voyez, de ce point de vue-là, le droit plutôt comme une série d'entraves ou est-ce que le cadre réglementaire vous paraît adapté?
Les deux, ça dépend vraiment des situations dans lesquelles on est. Je vais commencer par l'avantage que ça représente, c'est que finalement ça met en débat, y compris l'enquête publique, qui ne met plus en débat, mais qui à un moment un passage obligatoire d'information. Moi, je considère qu'on a un intérêt et il y a un devoir à finalement communiquer, à informer sur les projets qui ont un impact, quel qu'il soit, sur notre environnement, pour le dire de manière générale. Et donc, je trouve que ça a instauré en France une culture, peut-être par l'obligation, mais ça a instauré une culture. Je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'en France, avec parallèlement notre culture, on apprécie, on aime le débat, même si c'est du débat contradictoire. Ça, plus ces réglementations, ont finalement quand même créé un terrain. Voilà. Mais dans une procédure, dans un projet, ce que je fais ou j'essaye de dire aux commanditaires, c'est « Ok, vous avez cette obligation, mais faites-en quelque chose. » Donc, si on en fait quelque chose, et ben finalement, on se retrouve dans une situation dans laquelle on peut mettre en place un dispositif d'une certaine manière volontariste. Je ne dis pas volontaire, il est obligatoire, mais on y met ce qu'on en veut dedans. On a des contraintes d'information, de temporalité, de reddition des comptes, d'écriture, etc. Mais à part ça, ça nous dit juste dialoguer. Et dialoguer, ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
C'est là que vous entrez. Hein.
Voilà. Donc, pas d'entrave particulière. En revanche, ça donne des pouvoirs à des gens comme nous, d'ailleurs, qui peuvent considérer que c'est bien de pousser et de dire « faites ci, faites ça, faites ça ». À la CNDP, qui est un garant, en fait, externe et qui peut intervenir parfois de manière... inégale en fonction des projets. C'est-à-dire qu'on a des garants qui sont tout à fait dans une logique de construction de projets, mais aussi de droit à l'information, de droit à la participation, et qui, à ce titre, en fait, sont parfois un peu imposants dans les dispositifs vis-à-vis des commanditaires qui veulent quand même faire bien ou ne font pas bien, mais en général, nous, ceux qu'on accompagne, ils veulent faire bien, sinon on part pas avec eux. Voilà. Donc, je trouve que parfois, on a des difficultés de gestion, ou alors une obligation réglementaire de faire de la concertation à un moment, alors que dans l'histoire du projet, c'est pas forcément le moment le plus juste. Voilà. Ouais. Mais bon, d'une manière générale, quand on a l'expérience que j'ai maintenant, on trouve toujours une manière utile de mobiliser le moment réglementaire. J'ai pas d'obstacle à ça.
D'accord. Alors on peut peut-être passer aux expériences, aux différentes expériences dont vous voudriez nous parler, à différents, d'abord différentes, comment dire, missions. Vous dites, Respublica, c'est pas seulement de la participation, c'est aussi de l'aide à la prise de décision. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Puis d'autre part, vous m'avez dit quand on préparait cette discussion qu'il y avait différents types d'échelles. Des grosses conventions auxquelles vous avez été associé, ça évidemment ça nous intéresse, mais aussi le passage à des échelles territoriales moins élevées, des échelles moins grandes, qui sont aussi des choses que vous faites, sans parler d'autres expériences très stimulantes dont on aimerait entendre parler, comme par exemple évidemment les Jeux Olympiques.
Alors oui, je trouve qu'en fait c'est la richesse du débat public en France, je vais l'appeler comme ça, ou de la concertation en France. Je disais tout à l'heure qu'on aime le débat en France, et je dirais à toutes les échelles. On a, grâce à la Convention citoyenne, entendu parler de participation citoyenne dans les médias, ce qui était la première fois, finalement, et régulièrement. Aujourd'hui, vous vous branchez sur un média à la radio, vous entendez quelque part en France parler de la Convention citoyenne partout. C'est assez hallucinant. Enfin, en gros, ça, c'est quelque chose que moi qui me réjouit.
Elle existe dans l'expérience collective.
Ouais. Alors, on continue de rencontrer des gens qui n'en ont absolument pas entendu parler, mais ouais. Je veux dire, en tout cas, en visibilité, donc à partir du moment où on s'intéresse à la concertation, aujourd'hui on tombera sur la Convention citoyenne. C'est un repère identifié comme étant un dispositif qui est allé le plus loin possible dans l'expérience délibérative, la contribution citoyenne, etc. Mais du coup, ça met maintenant, alors qu'on n'en entendait jamais parler avant, ça met la barre très haute de moyens et je dirais méthodologie, comme finalement de temporalité, de moyens économiques, financiers, etc., qui ne sont absolument... Enfin, qui sont très difficiles à réunir à tous les niveaux finalement des collectivités ou des acteurs. Voilà. Et donc il faut savoir que la concertation au quotidien, c'est pas la convention citoyenne. Il y en a à des niveaux territoriaux, au niveau régional, au niveau métropolitain. Et ça pose, si on parle du sujet climatique, des enjeux ou des mises en débat très différentes. Donc, je ne sais pas si vous auriez envie qu'on rentre dans la différence de mise en débat entre le national et le territorial sur les questions climatiques. Il s'est passé énormément de choses depuis la Convention citoyenne et on peut changer. D'accord. En fait, la mise en débat, donc, y compris un processus comme celui-ci, nous apporte de la méthode, mais il faut toujours réadapter parce que ce qui induit le processus, c'est pas la méthode, c'est pas la convention citoyenne, c'est le sujet, c'est le territoire, c'est le décideur qu'il y a derrière, c'est le rapport à la prise de décision qui du coup enclenche une mise en débat et des modalités de mise en débat très différentes.
Est-ce qu'on peut rester quelques instants sur la convention citoyenne sur le climat? Quelle a été votre expérience, la part qui a prise Respublica, tout ça nous interroge beaucoup.
Alors, Respublica a été membre d'un groupement qui a organisé la convention et qui l'a co-designé, on va dire qu'il l'a co-pensé avec le comité de gouvernance qui était co-présidé par Thierry Pêche et Laurence Toubiana, et des membres de la société civile, experts, etc., et des membres du CESE. Donc ce comité de gouvernance a présidé, on va dire, à la conduite et aux orientations de la Convention citoyenne sous le regard, l'accompagnement, les conseils de nos modestes personnes qui opérationnellement en fait apportaient des réponses aux propositions ou aux questionnements ou même parfois les aidaient à revoir un peu leurs ambitions parce que avec des citoyens accompagnement du comité de gouvernance dans le design du processus et animation du processus avec son citoyen.
En fait, il y avait le comité de gouvernance, il y avait, je crois, un conseil scientifique.
Alors, conseil scientifique et technique, dont, en fait, aussi avec lequel on travaillait pour leur poser les questions qui étaient utiles aux citoyens et organiser leur travail à côté des citoyens. Donc, toute cette ingénierie qu'on inventait était assez complexe et il fallait s'assurer que par aucune des instances d'accompagnement de la convention, on pêche en termes de finalement d'équilibre, d'orientation, de qualité de mise en débat, de temps dont on disposait, etc. Donc en fait, c'était surtout faire atterrir sur des week-ends de travail toutes ces aspirations, écrire la loi, conseiller de manière scientifique et équilibrée, donc recruter des personnes, discuter avec ces personnes pour que leurs interventions soient cadrantes, utiles, pas trop influençantes, ou alors démontrant justement l'équilibre des sujets dans la société ou des controverses, etc.
Il m'avait frappé en lisant le livre de Thierry Pêche qui s'appelle « Le Parlement des citoyens » qui résume très bien, qui est un très bon livre.
Tout à fait.
C'est le détail, la précision dans les choix, je dirais, d'ingénierie démocratique, de par exemple la décision de mettre les votes des panels à un moment très précis, de manière à ce que ça soit, je dirais, pas trop tôt.
Oui.
Est-ce que ça a été inventé sur le moment? Est-ce que des décisions d'ingénierie comme ça ont été prises sur le coup? On a l'impression en lisant le livre que ça s'est découvert. Non, ça a été préparé. Et votre expérience à vous d'avant la convention vous a servi pour la convention?
Oui, tout à fait. Et elle nous sert encore maintenant. On n'organise jamais un vote de la même manière. Jamais. À chaque fois.
C'est pas un format unique?
Non. Maintenant, mais la discussion, et là pour le coup, a été passionnante et très enrichissante pour nous, la discussion avec Thierry Pêche, notamment sur la question du vote et des modes de vote, nous a beaucoup aidés. Mais ensuite, organiser un vote au jugement majoritaire ou organiser même un vote sur des amendements qui ont été proposés entre les séances par des citoyens, ces votes-là n'ont pas le même poids. Doit arriver à des moments différents, enfin je dirais un vote majoritaire sur les propositions ou un vote sur l'ensemble du dispositif. Donc cette discussion-là de la pertinence démocratique et de la faisabilité et de l'impact sur le collectif, sur la visibilité, la validation du dispositif aussi, tout ça va, donne lieu à des discussions qui sont passionnantes, qui sont à la fois politiques, pratiques, et voilà, enfin, dans l'optique de la rendre utile au service de la production citoyenne.
Alors ça pose une, le juriste est tenté de poser une question, le juriste il a envie que la procédure elle voilà. soit posée avant. Parce que le juriste, il est attentif à l'idée qu'on sache la procédure avant qu'il y ait le processus. Et l'idée qu'on invente au fur et à mesure la procédure non. ou qu'on l'invente on the spot, ça paraît étrange.
Jamais, non. Ouais. On ne l'invente pas sur le lieu. Ouais. On la prépare, on l'écrit, on en écrit le règlement avant.
Ouais.
Absolument. Enfin, on est complètement d'accord. Parce que la pire chose qui peut arriver dans un processus délibératif, c'est que la méthode soit remise en question au moment où on prend les décisions importantes. Donc, on est complètement d'accord. Maintenant, quand on dit on the spot, c'est 9 mois, un an de dispositif pendant lequel on voit progresser la production. On se dit, tiens, là, en fait, on a l'impression qu'on a une expression majoritaire. On sent bien que ce n'est pas le cas partout. Elle est exprimée dans les débats, elle est exprimée dans les comptes rendus. Comment est-ce qu'elle peut s'exprimer in fine? Donc, est-ce que finalement, on fait voter sur la mise en ligne, par exemple, ou la mise dans le rapport d'avis minoritaires? À partir de quand ces avis sont minoritaires, etc. Donc ça, oui, ça se réfléchit parce que pendant le dispositif, on se rend compte que, enfin maintenant, on le sait aussi, hein, l'expérience du fait qu'il y aura des avis minoritaires, on le sait. Ce qui fait que maintenant, dans des conventions qu'on organise, on pose assez rapidement la question aux commanditaires, est-ce que ça vous intéresse que l'on creuse les avis minoritaires qui portent sur tel sujet, sur tel sujet, sur tel sujet, une question de fond, mais aussi une question de posture et de finalement de présentation in fine de la photographie démocratique de l'exercice.
Moi, je m'étais dit au moment de la Convention citoyenne pour le climat qu'une sorte de divine surprise était qu'il n'y avait pas eu des climato-sceptiques très virulents qui auraient dit on ne veut pas entendre parler de vos histoires, ou alors éventuellement peut-être des militants verts très virulents aussi qui auraient dit tout ça, ça ne marche pas non plus. Il n'y avait pas eu au sein du panel, apparemment,
Il y en avait.
Ok, ben voilà, ben ça, c'est pas trop vu de l'extérieur. Moi je me suis dit c'était presque une chance qu'on avait l'impression de citoyens d'assez bonne volonté, prêts à être convaincus par les experts et n'exprimant pas des positions trop extrêmes. Corrigez-moi si c'était une
chose. Alors. L'objectif, et finalement que vous ayez cette impression-là, est à la fois rassurante et en gros, bien sûr que si.
D'accord.
Il y a même des participants, on en parle souvent, donc je vais le dire, mais qui est arrivé le premier jour, chapeau sur la tête, qui ne voulait pas lâcher ses valises. C'est comme ça, chapeau sur la tête. Et vers lequel je vais, en disant, bon, bah, y en a quelques-uns qui sont un peu sur la réserve, on y va. Est-ce que vous avez envie de participer? Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce que vous voulez déposer votre valise? Ah non, parce que là, je cède tout à fait. Là, vous allez nous amener vers la bonne pensée écolo, la taxe carbone, machin et tout. En fait, puis le climat, qu'est-ce que vous allez nous mettre dans le crâne? Voilà. Bon.
Ce qui est marrant, c'est qu'elle était venue quand même.
Ah, elle était venue quand même. Je dis, bah écoutez, vous avez quand même. Oui, enfin. Ça m'intéresse de comprendre comment on peut être endoctriné, ok, se déclarant climato-sceptique d'emblée. Il est resté jusqu'au bout, il a fait son cheminement, et aujourd'hui c'est un des défenseurs des propositions citoyennes, mais du coup, dans le débat au début, il a posé ses points de vue. Et dans d'autres conventions citoyennes, on est même arrivé autour de la table. Enfin, je ne sais pas si vous avez une vision de ça, mais il se trouve qu'on dit que 30 ou peut-être un peu plus de pourcents de Français ont une fragilité mentale, quelle qu'il soit, et viennent avec des bagages dépressifs, de difficultés, quelles qu'elles soient. Mais bon, voilà, je mets ça dans un paquet qui est très global et difficile à, peut-être difficile à cerner, mais c'est vrai que dans les processus dans lesquels on a vraiment un tirage au sort, on se retrouve avec des personnes qui ont des doutes, des fragilités, des expériences personnelles très heurtées, et que sur tous les sujets, il y a une méfiance globale d'être entraîné, d'être bousculé, d'être fragilisé, etc. Et donc ça, sur le climat et sur d'autres sujets, l'éco-anxiété, le doute, la remise en question des élites, des scientifiques, etc., c'est au cœur des débats. Enfin, je ne peux pas vous dire qu'il n'y avait pas. Après, ils cheminent ensemble.
Juste une dernière sous-question qui me taraude un peu. Il a posé ses valises. Oui.
Ah, il a posé ses valises et il est resté, mais il a mis du temps.
Hein. J'avais une dernière question sur ce sujet-là, excusez-moi, mais c'est une question que je me pose et vous êtes vraiment la personne qui peut y répondre. Il y aura, admettons qu'aujourd'hui, il y ait un reflet, non pas exactement de tous les citoyens statistiquement, mais des grands courants de pensée politique. Il y aurait au sein de la Convention climat non seulement des gens qui sont climato-sceptiques, mais des gens qui ont une structuration politique oppositionnelle, qui en pensent un certain nombre de choses, qui expriment les positions de tel parti, de tel courant, de tel mouvement, donc des gens mentalement plus structurés que des simples opposants de réflexe. Est-ce que vous y avez pensé? D'ailleurs, ils ont le droit d'être comme ça. Ça fait partie des positions, ça fait partie de la démocratie.
Ça pose un vrai sujet. oui, tout à fait. Alors, ça faisait un peu partie des défis que je voulais évoquer à la fin, mais oui. En fait, aujourd'hui, là, ils se sont passés combien d'années? 3 ans depuis la Convention citoyenne. Je ne vois pas le temps passer. La France, la question climatique, la concertation et le débat public ne sont plus les mêmes dans notre société qu'ils les étaient il y a 3 ans. La montée finalement aussi de l'extrême droite, pour le dire rapidement, et des extrêmes politiques, en 3 ans là, ont complètement reconfiguré finalement l'expression citoyenne dans les processus démocratiques.
D'accord.
Moi, je raconte souvent aux jeunes qui arrivent à Respublica et qui sont choqués par des prises de position pendant les débats, que il y a 20 ans, ça s'exprimait de la même manière parce que les gens découvraient qu'ils pouvaient prendre la parole. Et donc, ils disaient de manière assez spontanée ce qu'ils pensaient avec finalement des prises de position assez opposées. Et c'était, je dirais, un débat presque spontané, naturel, et les gens sortaient de là et disaient « Oh là là, mais je me rendais pas compte, les gens pensaient pas comme moi. » C'est un peu comme le service militaire, j'ai croisé des gens qui pensaient tout et n'importe quoi.
Il y a toujours eu des antagonismes.
Il y a eu ça, puis pendant une quinzaine d'années, et là on sort de cette période-là, il y a une sorte de polissage. La concertation s'est installée, et donc ça fait partie du fameux débat « Est-ce que ça a servi ? Est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs dans tout ça ?» Moi, j'ai constaté, dans les débats publics, et du coup, à travailler constamment, le fait de dire aux gens, mais exprimez-vous, ne restez pas sur un politiquement correct pendant les débats, parce que vous estimez que tout le monde doit penser qu'il faut du logement social près de chez moi, parce que il faut préserver l'environnement. Dites ce que vous pensez. Parce que sinon, ces éléments-là, que je caricature un peu, sont bien présents, polissés, entendus. Il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. Et donc, du coup, ça impacte. Et aujourd'hui, là, la présence et la montée du Rassemblement National, de la NUPES, et finalement l'expression un peu cash de certains de nos hommes et femmes politiques, décomplexe, redécomplexe les gens. Je ne peux pas dire qu'au fond, enfin, si on analyse comment les sondages ont positionné les gens, je pense qu'on a eu une période où réellement il y a eu une sorte de convergence peut-être plus plus consensuel sur des enjeux de société, sauf que là, et c'est aussi lié à mon avis à la situation dans laquelle on est face au climat, face aux urgences, on a la trouille. Enfin, en gros, on doit passer à l'action aujourd'hui. On n'est plus dans une analyse globale des enjeux face auxquels on pourrait trouver des solutions macro à la COP 21 ou à la COP 24, etc. On est dans maintenant comment on fait. Et donc, y compris dans le débat public, quand on parle d'accompagner les décisions publiques, on a pendant des années organisé le débat sur... et c'est pour ça que c'était gentil, mou et finalement pas forcément efficace, on a organisé sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et on s'est entendu sur qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas compliqué de s'entendre sur qu'est-ce qu'on doit faire quand on a les analyses, etc. Maintenant, c'est comment on le fait. Comment on le met en œuvre. Et c'est maintenant. Et on a peut-être même déjà raté le cap, et donc il faut organiser le débat sur les réponses au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Et donc c'est sous nos yeux, les accidents sont sous nos yeux. Donc là, je dirais, il y a du repli, ou il y a de l'agressivité, ou il y a de l'urgence, ou il y a, enfin voilà, ce qui se passe finalement dans la sphère publique se passe dans le débat. Et je pense qu'un des, peut-être, des remises en question de la concertation et finalement de tous les débats la co-construction qu'on a pu avoir, c'est qu'elle a contribué à définir le comment, stratégiquement, on allait répondre aux questions. Et en fait, on se rend compte que ça n'a servi à rien. Ça ne nous a pas permis de résoudre les sujets. Alors, et quand je reviens avec ce que je disais de mon expérience de la ville à l'époque, quand je me suis rendu compte jeune qu'il allait falloir que je résolve des problèmes sociaux, des problèmes de gestion de l'eau, enfin, je passe au Brésil, des urgences catastrophiques, enfin, vraiment compliquées, hein, d'habitat insalubre, des favelas, etc., qu'il allait falloir résoudre tout ça, j'ai eu ce sentiment-là d'urgence, d'inquiétude, de comment je vais y arriver toute seule. Et la concertation m'a aidée. Maintenant, je me suis fait aussi sans doute embarquer dans toutes, mais les Français sont forts là-dessus, des périodes de débat dans lesquelles j'ai eu de l'espoir, mais qui, voilà, aussi n'étaient pas connectées forcément à l'action. Donc, si on revient, peut-être qu'on y reviendra. Oui, après, voilà.
Bon. Moi, j'ai une, ouais, j'ai une question, allez-y. C'est que je rebondis sur ce que vous venez de dire, et je vois sur votre site que les bonnes décisions sont prises grâce à des processus de concertation et de dialogue coopératif. Donc, vous adoptez, d'après ce que je comprends, une vision assez fonctionnaliste de la démocratie, oui. C'est-à-dire la décision est bonne parce qu'elle a été prise selon, dans des conditions, oui, de dialogue, etc. Est-ce que il est déjà arrivé que la décision finale soit au final plus mauvaise que ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas été prise dans un truc collaboratif?
Ça, je ne peux pas vous dire. Alors, on n'a pas une démarche fonctionnaliste, on essaye. C'est une manière aussi d'affirmer, n'organisez pas un débat pour rien dire ou pour rien faire qui ne sera pas connecté à la décision. Donc je ne peux pas vous laisser dire que c'est seulement fonctionnaliste. C'est connecté à la question technique et à la question politique. Et c'est ça l'enjeu, enfin, de l'utilité ou de l'efficacité du processus. C'est pas A plus B vont donner la bonne réponse. Voilà.
L'idée, c'est, est-ce que sur certains sujets particulièrement sensible, tout le tropisme un peu démagogique qui se développe de plus en plus aujourd'hui ne vient pas parasiter un peu le processus et ne vient pas contaminer l'idée même de dialogue coopératif, collaboratif, de démocratie participative.
Je vais dire peut-être quelque chose pour défendre ma paroisse. Qu'à Respublica, on a la chance de choisir les sujets sur lesquels on travaille, donc on s'assure avant qu'on ne va pas être coincé dans quelque chose de cet ordre-là. Typiquement, un développeur d'énergie renouvelable vient nous voir et nous dit « je dois développer à tel endroit ». Ah non, mais c'était pas énergie renouvelable, c'était mine, etc. J'ai besoin de développer, il faut absolument que les gens comprennent, acceptent, on ne pourra pas faire sans le lithium, machin, voilà. Bon. Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour faire comprendre ça aux gens? Je dis, non, c'est pas mon travail. Un bon processus et une bonne com, je peux vous le faire, mais pour une bonne décision, si vous vous préjuger avant même d'avoir commencé et si je peux être d'accord avec vous sur le fait que peut-être que ce projet-là, il est bien pensé, etc. Moi, je n'organise pas le débat là-dessus. Ça n'empêche pas que il y a un vrai débat à l'interne entre nous à chaque fois. On se demande, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit accompagner ce maître d'ouvrage qui a un projet pour la transition, mais qui va avoir des impacts, etc. Est-ce qu'on l'accompagne ou est-ce qu'on ne l'accompagne pas? À partir du moment où il nous dit « je prendrai la décision en ayant écouté », je ne dis pas que c'est la bonne décision ou la mauvaise décision, moi, ce n'est pas à moi de le dire, ça, hein. Sinon, je commencerai mes animations en étant persuadée de savoir. Alors, peut-être petit tropisme personnel aussi. Pendant très longtemps, j'avais le sentiment que j'étais incapable personnellement de faire des choix. Je continue à avoir des difficultés, mais bon, comme plein de gens, c'est dur. Choisir, c'est renoncer, etc. Et concerter, pour moi, ça m'aide vraiment, enfin moi je le sens, j'en suis intimement convaincue que ça m'aide à comprendre, à éclairer et prendre des choix et faire des choix. Et donc dans la discussion, j'arrive systématiquement sans, enfin c'est une posture, mais je pense que naturellement j'ai cette posture là, j'ai tendance à pas du tout être sûre de moi ou de sûre de de l'expertise et j'ai besoin de la décortiquer, j'ai besoin de l'apprendre, etc. Donc je pense que c'est plus une question de posture des maîtres d'ouvrage qu'on doit vérifier avant. Est-ce qu'ils sont dans une logique? Alors ils seront pas à mon niveau parce que je pense que moi je suis la plus incertaine ou la plus voilà, mais ils ont un petit bout, on sent assez facilement dans la discussion que en leur posant des questions sur qu'est-ce qui vous intéresserait comme qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme réponse ou comme point de vue du public que vous allez concerter pour prendre votre décision. Vous posez cette question-là aux gens et vous comprenez tout de suite s'ils ont un intérêt ou pas à la discussion. Mmh. Et contrairement à ce qu'on peut dire, il faut d'abord vérifier quelles sont les marges de manœuvre du projet avant de le mettre en discussion. Il y a des gens qui ont peu de marges de manœuvre, mais qui sont capables de vous dire, en fait, techniquement, il faut absolument qu'on fasse comme ci, comme ça. On n'a pas beaucoup d'options. Juridiquement, on est complètement contraint. Financièrement, ça se passe comme ça, etc. Mais on a ce projet-là. C'est un peu le mieux qu'on peut faire. Mais on pense que y a quelques sujets sur lesquels, si on savait mieux ces impacts pour les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça aura des atouts? Est-ce que ça aura des inconvénients pour nous? Rien que de savoir ça, ça nous permettra de mettre en place toutes les mesures d'accompagnement de ce dispositif. Ça, c'est déjà super intéressant. Et donc, pour revenir à votre question, dans un processus, je ne sais pas si j'y réponds direct, hein, mais une concertation, il y a un intérêt à éclairer la décision. Nous, c'est ce qu'on dit à nos maîtres d'ouvrage. En revanche, il y a aussi plein d'autres choses qui se passent. Regardez la convention citoyenne. On s'est dit, le sans-filtre a un peu déstabilisé le truc. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la convention qui a eu un impact bien au-delà de la production même des citoyens, qui n'a pas obtenu, selon certains, des réponses suffisantes. Mise en place, enfin, ou réflexion politique sur la place du citoyen par rapport aux législatives, par rapport à ceux qui faisaient la loi. Présentation d'une plateforme, on va dire, pratiquement politique, de laquelle les ONG, les environnementalistes ont pu se saisir, alors que pendant des années, ils considéraient que c'était eux qui étaient les principaux leviers pour faire bouger les politiques. Enfin, des histoires humaines, des engagements politiques des citoyens, enfin plein d'autres choses qui se passent dans tous les processus, du lien social. Voilà, je reviens de Normandie dans laquelle j'ai organisé 4 réunions publiques en me disant, et même en postant moi-même sur les réseaux, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'aller faire une réunion publique? Oui, il y a des gens qui arrivent parce qu'on leur a dit qu'il y avait un cocktail, un roquet, d'accord, enfin il y avait un truc, non mais rien que ça, C'est débile, mais ils sont là, ils sont autour de la table, ils rencontrent les élus discutent avec eux, ils comprennent les difficultés qu'ont les élus. Et quand vous mettez en débat les choses de manière, finalement, au cœur de la difficulté, bah, les gens sont intéressés. On leur demande quels sont les dilemmes, on leur demande comment répondre aux dilemmes que se posent les élus. On continue de construire du logement individuel, ça va consommer des espaces, on a la ZAN, voilà, zéro artificialisation nette qui se pointe, on a des zones complètement et partout presque inondables en métropole rouennaise. Où est-ce qu'on construit, à quelles conditions on peut continuer de construire dans des zones inondables, etc. On leur pose des questions compliquées. Ben, je peux vous dire que le débat, il n'est pas inutile. Hein.
Enfin, je me rappelle d'un propos de Thierry Pêche qui disait dans la Convention citoyenne pour le climat, on a pris les citoyens, on les a fait venir dans la cuisine des politiques publiques et on leur a fait constater qu'il y avait très peu d'ingrédients. Oui. Qu'en réalité, les processus qu'on pouvait fabriquer dans la cuisine, la marge n'était pas très grande. En réalité, c'est un petit peu ce
que... Exactement.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de pire, vu de l'extérieur, il n'y a rien de pire que les processus de décision publique type A69 ou Mégabassine, où les gens ont l'impression que la décision est déjà prise et que la seule option possible, c'est une opposition frontale, qui veut dire en réalité qu'on sait qu'on a déjà perdu. C'est-à-dire la frontalité de l'opposition est due au fait que les opposants savent qu'il n'y a plus d'autre option. Est-ce que ça correspond à votre expérience? Est-ce qu'on peut désamorcer aussi?
Bah, c'est pour ça que, pour revenir à votre question sur l'utilité de la loi et de la réglementation en France, elle indique bien que la concertation préalable doit arriver le plus en amont possible du projet. Ça, c'est la différence qu'on a encaissée et assimilée avec l'enquête publique. Mmh. Voilà. Qui protège en fait avant tout la propriété privée et qui vient vérifier qu'on ne vient pas spolier d'une manière ou d'une autre ou impacter. La concertation préalable, elle a mis dans l'esprit des maîtres d'ouvrage qu'il fallait concerter le plus en amont possible. Les mégabassines, la 69, c'est trop tard.
Oui, c'est ça.
C'est trop tard. Et en gros, ils ont fait des fausses concertations en amont. Ils ont signé le truc et ils ont rempli leur engagement réglementaire. Enfin, ils avaient rempli les obligations réglementaires, mais ils n'en ont rien fait. C'est pour ça que je vous disais, tout dépend de ce que vous faites de cette concertation. Est-ce que à ce moment-là, vous avez une mise en débat qui est vraiment qui porte sur des sujets qui vont pouvoir éclairer ou faire bouger les choses ou pas, et voilà. Mais
c'est-à-dire
Légal,
réglementaire identique, on peut faire enrichir ou non, est-ce qu'on met de la plus-value ou non dans le débat public, oui non. Il peut aussi y avoir des cas où on respecte le cadre réglementaire,
tout
mais il n'y a aucun enrichissement
tout
de la discussion et c'est purement formel.
Ouais. Tout à fait. Dans un cadre volontaire. C'est pour ça que, enfin, après les professionnels, et si on revient un peu au métier qu'on a, on est un certain nombre de professionnels qui nous réunissons et qui avons essayé, notamment en enseignant, il y a un master d'ingénierie de la concertation à la Sorbonne, dans lequel enseigne Gilles-Laurent Ressac, mon associé, dans lequel on intervient, on forme et on récupère des étudiants qui sont formés, pour diffuser une culture, je sais pas comment dire, une culture de la participation. Je vais m'arrêter là. Je peux dire qu'il y en a de la juste et de la pas juste, mais en tout cas, il y a des difficultés, il y a des travers, c'est évident. Alors, on est arrivé, et maintenant, enfin, il y a des tas de lieux où on débat de la concertation. Je sais plus où je veux en venir avec votre question.
Vous avez répondu. Comme le temps passe, on pourrait peut-être passer maintenant. Moi, ça m'intéresserait qu'on passe à l'échelle territoriale, parce que vous avez fait au niveau local. Peut-être un petit mot sur le cas du travail, si vous en avez fait, mais je pense que c'est le cas, avec des entreprises privées, parce que ça, c'est un thème que je trouve intéressant. Je me pose la question de comment on fait dans l'entreprise privée pour qu'il y ait véritablement consultation, et puis on se donnera le temps quand même d'évoquer les JO et Grenville.
Alors, au niveau territorial et local... Il faut voir que plus on descend dans les échelles locales, plus les élus sont en fait des faiseurs, voire des techniciens, et beaucoup, et ont moins le temps de se poser la question politique. Ils sont là pour résoudre les problèmes de leurs concitoyens, et il manque souvent d'agents ou de techniciens pour les aider. Et du coup,